20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Rome à la rame, tel sera le titre de notre Carbone 14, consacré aux dernières découvertes et avancées de la recherche en archéologie navale et sous-marine en Italie. C'est en effet au cœur de l'école française de Rome, Place Navone, que s'est tenu voici peu un congrès international sur ces épaves romaines. N'ayant pu y participer, ma seule référence restait Bénure. Bénure, sous les traits de Charlton Heston, enferré sur sa galère, mais sauvant le consul Quintus Arius. Je lui préfère ce soir une archéologue spécialiste d'archéologie navale, en duplex des studios d'Aix-en-Provence, Giulia Boito, bonsoir.
Bonsoir.
Chargée de recherche au CNRS, vous avez récemment séjourné à l'École française de Rome et organisé cette rencontre. Sous les eaux claires comme dans les vases portuaires, ces épaves pourraient-elles être le reflet de l'histoire du grand empire romain?
Tout à fait, oui. Et nous raconte une histoire complètement étonnante qui concerne surtout la technique, les techniques de navigation, de construction des bateaux. Et puis, de là aussi, plein d'autres informations qu'on peut en tirer.
C'est aussi des bateaux qui circulent à travers un monde absolument gigantesque, l'Empire romain ?
Oui, bien sûr. Ils sillonnent toute la Méditerranée et aussi au-delà. Bien sûr qu'on commence à les connaître de mieux en mieux grâce au développement des recherches d'archéologie sous-marine, donc de toutes ces découvertes qui sont en train d'augmenter. Mais surtout, grâce à des fouilles un peu particulières auxquelles les archéologues sont de plus en plus appelés à résoudre et sont justement dans les ports antiques qui sont aujourd'hui complètement enterrés.
Giulia Boito, l'archéologie sous-marine n'existerait pas, les archéologues préférant travailler à l'élaboration d'une archéologie navale. C'est, semble-t-il, pas du tout pareil?
Oui, tout à fait. On parle d'archéologie navale, donc d'une véritable discipline qui fait appel à l'histoire des techniques, donc qui a comme objet d'étude les navires, les embarcations de toute époque et de tout type. Donc de la préhistoire jusqu'à l'ère, début de l'ère industrielle et bien au-delà. Donc l'archéologie sous-marine est plutôt une méthode d'intervention dans le milieu justement sous-marin ou subaquatique, si on intervient dans les rivières, dans les eaux intérieures. Et donc c'est pas tout à fait une discipline. Et permet à l'archéologue, qui normalement travaille à terre, d'intervenir dans un milieu autre, c'est-à-dire sous les eaux. Il faut dire que l'archéologie navale est une discipline déjà assez ancienne, qui est née déjà en France à l'époque de la Renaissance, qui va se développer au XIXe siècle, mais par ses objets, ses sources et ses problématiques, reste à cette époque-là assez limitée. Et c'est justement grâce à l'archéologie sous-marine que l'archéologie navale va complètement se développer et a changé d'optique, justement. On a déjà parlé l'élargissement de l'objet d'étude, non seulement les bateaux de guerre dès l'Antiquité et, dans une certaine mesure, du Moyen-Âge, mais tout type de navire, mais aussi le recours à d'autres types de sources. Alors, non seulement les sources écrites, par un manque d'archéologie, de sources archéologiques, à la Renaissance et puis au XIXe siècle, justement, avec le développement des fouilles, justement, on peut intervenir sur les restes, les vestiges véritables des navires. Et puis aussi le recours à d'autres sources, donc pas seulement les textes, mais aussi l'iconographie, c'est-à-dire les images, les représentations des bateaux. et dans une certaine mesure aussi l'ethnologie, parce qu'il nous permet de connaître, par exemple, de faire des comparaisons sur des systèmes techniques, sur des types de navigation, etc. Et puis surtout, ce sont les problématiques, grâce au développement de l'archéologie sous-marine, vont complètement changer. Donc on va connaître le bateau dans son anatomie la plus, disons, cachée, et on peut essayer de restituer quelle est la conception du bateau par les constructeurs des navires, les méthodes qui sont mises en place sur les chantiers de construction jusqu'aux plus petits détails de construction même. Et aujourd'hui, justement, on arrive même à distinguer des traditions de construction navale à l'intérieur de cette grande mer qui est la mer méditerranéenne. Je parle pour l'Antiquité, étant spécialiste de cette époque, en mettant en évidence justement des traditions séparées qui ont leur propre développement interne. Donc ça, c'est grâce justement à tous ces acquis de l'archéologie sous-marine.
Julia Boito, l'histoire de la navigation en Méditerranée commence par une très importante découverte faite en Istrie, l'actuelle Croatie. Vous avez étudié cette exceptionnelle épave ?
Oui, tout à fait. Il s'agit d'une épave d'un bateau entièrement cousu, c'est-à-dire dont tous les éléments de la coque sont reliés entre eux par des ligatures. On n'a pas retrouvé les ligatures en soi-même parce qu'ils ne se sont pas conservés. Il faut noter que l'embarcation est datée entre la fin du XIIe siècle avant notre ère et la fin du Xe siècle avant notre ère, donc c'est très ancien. Il s'agit de la plus ancienne témoignage d'un bateau entièrement cousu de Méditerranée. Mais là, on est dans un milieu de navigation, un espace de navigation assez particulier. On est en Adriatique du Nord, près de la côte istrienne. Donc, on voit déjà un type de bateau, donc on a dit très particulier, mais assez développé pour cette époque-là. Mais je voulais rappeler que on connaît une épave encore plus ancienne, qui est l'épave de Uluburun, qui avait été fouillée dans les années 80-90 par une équipe turque de George Bass et Jamal Pulak à la suite, donc de la Texas A&M University au Texas, aux États-Unis. C'est un véritable navire de commerce de à peu près 16 mètres de long, restitué, qui avait un chargement exceptionnel de matériel d'origine très différente de Chypre, Égypte, Mycène, et donc qui permet de connaître aussi tout un pan du commerce et de la richesse, justement, de la vitalité du commerce en Méditerranée à l'âge du bronze.
Justement, l'épave de Uluburun contenait aussi des ivoires qui visiblement venaient du Soudan. La tradition du bateau cousu, que l'on retrouve d'ailleurs dans le monde islamique, je pense bien sûr à l'océan Indien, perdure-t-elle en Méditerranée occidentale ?
Oui, alors après le bateau de Zamratia, qu'il faut dire que c'est un petit bateau de à peu près 10 mètres de long, donc pas tout à fait comparable avec Uluburun, hein, et qui est construite avec une autre technique, bien sûr. Donc cette technique de la ligature va perdurer, en particulier en Adriatique, jusqu'à l'époque de l'Antiquité tardive, peut-être le Moyen-Âge, on ne sait pas trop bien. On a une découverte sur la côte, donc le delta du Pô, d'un bateau qui est daté au 5e siècle de notre ère, puis une autre aussi du 7e siècle, donc on est à Comacchio, Cervia, par là. Donc on voit bien que dans ces milieux un peu particulier, des espaces de navigation à la fois lagunaires dans le delta du Pô ou archipélagiques côté plutôt oriental de l'Adriatique, on a cette technique de la ligature va perdurer sur des navires bien adaptés à une navigation locale. Mais il faut dire que pour ce qui est de la technique de la ligature, on a une autre tradition très bien témoignée par les vestiges archéologiques, et c'est la tradition grecque qu'on connaît bien par les découvertes de Marseille, place Jules Verne. Donc de bateaux de tradition grecque datés à la fin du 16e siècle avant notre ère.
Julia Boito, Rome, c'est bien sûr Ostie, le port de Claude. On imagine des milliers d'épaves à découvrir.
Oui, bien sûr. Alors, le port de Claude est actuellement enterré. C'est un bassin portuaire énorme de 100 hectares. Et si on considère aussi l'agrandissement de Trajan, le grand hexagone qu'on voit quand on prend l'avion en partant de l'aéroport de Fiumicino, là on a encore 36 hectares de bassin portuaire. Tout est enterré. Et ce n'est que dans la fin des années 50 que, grâce justement aux travaux entrepris pour la construction de l'aéroport international de Fiumicino, de Leonardo da Vinci à Fiumicino, que les vestiges de 5 épaves ont été mis au jour. Donc après plusieurs aventures, disons, ces vestiges ont pu être conservés. En effet, ils se sont simplement séchés et ont été abrités dans un petit musée qui a ouvert juste près des pistes d'atterrissage des avions.
Justement, Julia Boito, à Fiumicino, on aurait vraiment trouvé une sorte de véritable cimetière de bateaux.
Oui, on est au fond du grand bassin construit par l'empereur Claude, qui avait déjà des petits problèmes d'enterrement. Il faut rappeler que les ingénieurs, à l'époque, ils avaient vraiment déconseillé l'empereur de construire ce port à 3 km au nord d'Ostie, parce que par les jeux de courant, et on est très près de l'embouchure du Tibre, et donc par les jeux de courant, il savait très bien qu'il allait avoir des problèmes tout de suite. Mais en tout cas, on discute pas avec un empereur, donc on a construit cet énorme bassin portuaire. Il faut savoir que Rome, c'était, on l'a appelé le trou noir de la consommation, c'est-à-dire c'était une ville énorme d'un million d'habitants qu'il fallait ravitailler avec des biens de consommation. C'est surtout le blé, le vin, l'huile. Et donc, il fallait munir Ostie, qui était à l'embouchure du Tibre, d'un port digne de ce nom. Parce que jusqu'alors, on utilisait Pozzuoli, qui était situé à côté de Naples, dans la baie de Naples. Et de là, il fallait acheminer les marchandises sur des embarcations plus petites jusqu'à Rome, jusqu'à Ostie, et puis de là, à travers le Tibre, jusqu'à Rome. Donc, construction d'un grand port. Et bien sûr, comme vous savez très bien, encore aujourd'hui, souvent dans les ports, on retrouve des carcasses de bateaux. On abandonne des navires parce qu'ils sont trop vieux et ils sont complètement, on peut plus les utiliser pour la navigation. Donc là, c'est le cas de cette découverte du port de Claude. Et le fait exceptionnel, justement, quand on a un ensemble comme ça de navires, et c'est la possibilité de retrouver des types d'embarcations tout à fait particulières qui ne sont pas liées à une navigation qu'on appelle hauturière, c'est-à-dire de mer ouverte, hein, mais qui peuvent être liées à la vie portuaire, c'est-à-dire donc des embarcations de petite ou moyenne taille qui servent pour la vie du port. On doit imaginer cet énorme port rempli d'embarcations de toute taille, avec une activité frénétique entre les grands bateaux qui arrivent d'Alexandrie et d'ailleurs, de Sicile, etc., qui cherchent un mouillage, qu'il faut contrôler, qu'il faut justement, qu'ils ont besoin de radoubes, etc., etc. Et donc, on a besoin d'embarcations aussi pour décharger ou charger les navires en particulier. Donc, la chance qu'on a eue dans le port de Claude, c'est justement la découverte de 3 navires d'un type particulier qu'on a pu identifier avec des navets scodicariés. Les navets scodicariés sont connus par les textes et aussi par un certain nombre de représentations figurées.
Il y en a un très beau cas à Ostie, je crois.
Bien sûr, sur la mosaïque de la station 25 de la place de Corporation, qui est datée 200 après notre ère. Mais on a d'autres aussi à Rome, au Musée National Romain, etc. Il y a une très belle fresque au Vatican, par exemple. C'est la Isis Geminiana. Et donc, ces petites embarcations entre 50 et 70 tonnes de porc en lourd pouvaient aisément aider au déchargement des marchandises des grands bateaux qui arrivaient notamment d'Égypte. Et puis aussi, ils étaient chargés, ces navets scodicariés, à partir des grands entrepôts qui entouraient toute cette zone portuaire, dont les grandes infrastructures construites déjà par Claude et puis Trajan et puis tous les empereurs successifs. Donc ces petites embarcations avaient la particularité d'avoir un mât placé très à l'avant qui servait justement pour l'attraction, donc l'halage, à partir des berges du Tibre. Et donc, en 3 jours, ces navets scodicariés pouvaient rejoindre Rome et décharger les approvisionnements, surtout le blé, avec une rotation, revenir à Ostie, peut-être en chargeant d'autres types de matériaux. On pense par exemple à des briques, on pourrait imaginer des choses comme ça, ou de la pouzzolane, etc. Et donc, refaire une autre rotation. Donc on a calculé que, comme le Tibre était navigable sur pas mal de jours à l'année, donc il y avait toute une noria de codicariés qui avitaillaient Rome, justement à partir des entrepôts placés soit dans le grand port de Claude, soit à Ostie même.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Giulia Boeto, il y a aussi à Fiumicino l'épave Fiumicino 5 qui était une toute petite barque avec son casier qui était donc son vivier au centre. Giulia Boeto, évoquons une exceptionnelle découverte, objet de votre colloque, la découverte à Naples d'épaves lors du creusement de la ligne 1 du métro.
Oui, tout à fait. Alors c'est en 2003, fin 2003, début 2004, que les vestiges des restes de fragments de bois ont été mis au jour dans cette fouille, une station à ciel ouvert du métro, de la ligne 1 actuelle de la métro de Naples. Et à cette époque-là, donc j'étais présente sur le chantier, et donc on a fouillé 3 épaves d'époque romaine, donc datées, abandonnées à la fin du 1er siècle pour 2 d'entre elles, et entre la Napoli B, qui est datée vers la fin du 2e siècle, début du 13e siècle de notre ère. Mais il faut dire que comme la fouille a continué pour la construction du métro, d'autres découvertes ont suivi, dont 10 d'années après, donc en 2014-15, on a découvert d'autres parties d'épaves, justement, dans cette énorme station qui fait la liaison entre 2 lignes de métro, la ligne 1 et la ligne 6.
Giulia Boeto, l'épave C de Naples est une aurea. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un type particulier. On est encore dans les bateaux de service portuaire. Ce navire, qui est conservé sur 12 mètres de long, présente un tableau vertical. Alors, un tableau vertical à une extrémité, c'est-à-dire la forme du bateau n'est pas symétrique, donc on a une extrémité asymétrique munie de ce tableau. Et on a identifié cet tableau vertical avec l'avant du bateau. Alors, ça choque toujours un petit peu parce qu'on imagine que c'est plutôt l'arrière du bateau, mais ce n'est pas le cas. Par la comparaison justement avec les documents iconographiques, on voit bien que le gouvernail est placé surtout dans la partie, disons, courbe des représentations. Donc on imagine que le tableau est l'avant du bateau. Donc ça permettait d'accoster plus facilement contre les quais et contre les bateaux et décharger ou charger les marchandises.
Ces bateaux ont été aussi découverts, par exemple, à Toulon, mais aussi à Ostie, c'est la fameuse épave Isola Sacra 1.
Oui, tout à fait. Alors, vous devez imaginer mon étonnement, parce que, comme j'étais appelée à travailler aussi à Isola Sacra en 2011, on a l'étonnement de trouver encore, de découvrir une autre épave de bateau de type Aurea. Donc là aussi, on a une grande navire avec un tableau vertical à une extrémité, mais d'une forme un petit peu différente par rapport à Napolitain. C'est là tout l'intérêt de cette famille, maintenant on parle plutôt de famille plus que de type, des bateaux de type Oreia. Parce qu'on a donc la découverte de Toulon de deux petites barques, donc c'est entre 6 mètres et 8 mètres. Après, on a Napolitain. Alors, Napolitain et Toulon sont proches comme caractéristiques. Puis, on a Isola Sacra. Et puis, encore une fois, à Naples, on a découvert une autre épave, Napolitain, cette fois. Encore une fois, avec un tableau vertical. Donc, on voit que, grâce aux fouilles dans les bassins portuaires, on a toutes ces découvertes de types de bateaux qu'on ne connaissait pas auparavant, si on avait fouillé seulement en mer.
Ce sont des bateaux en voile ?
Alors, pour Napolitain, oui. Mais c'est intéressant parce que dans un premier moment, alors ce bateau probablement à propulsion mixte, c'est-à-dire voile et rame, donc il a eu une très longue vie. Et à un certain moment, ils ont démonté la carlingue en planture du mât pour utiliser le bateau différemment. Alors on ne sait pas trop, c'est un ponton, on ne sait pas trop. Et puis jusqu'à la fin, ils l'ont abandonné. Donc nous, on n'a pas retrouvé la trace, le massif d'implanture du mât. On a des traces, des entailles sur les membrures qui font, ils nous font penser qu'il y avait véritablement d'implanture du mât et donc un mât, donc une propulsion vélique, mais aussi mixte, donc aussi à la rame.
Cette épave Napolitain est en cours de restauration ?
Oui, actuellement, toutes les épaves qui ont été découvertes à Naples sont stockées dans un grand lieu de stockage de la surintendance archéologique, donc immergée dans des bassins et en attente justement des traitements de conservation. Et c'est justement c'était un des thèmes qu'on a traité lors de ce colloque à Rome. Et c'était justement le problème de la conservation des bois gorgés d'eau, qui est un véritable problème. En France, heureusement, on est très avancé sur ce côté-là. On a plein de vestiges de bateaux antiques qui sont exposés dans des musées, vous savez bien. Mais pour ce qui est de l'Italie, il y a eu quelques retards dans la matière. Et donc, c'était un peu aussi le souhait de notre colloque, c'était un peu de faire bouger un peu les choses de ce point de vue-là. En tout cas, oui, on a un projet, on est en train d'élaborer un projet de conservation et restauration avec l'Institut et École supérieure de la restauration de Rome, ISCR de Rome, du ministère de la Culture, et en collaboration aussi avec le laboratoire Arc Nucléaire de Grenoble, qui est un grand laboratoire spécialisé dans la traitement des bois gorgés d'eau.
Qu'en est-il des grands bateaux de commerce, à l'image de la Madrague de Gien, coulée avec ses 6500 amphores dans les années 60 avant notre ère? On a beaucoup de bateaux comme ça?
Comme la Madrague de Gien, pas trop. C'est vraiment une exception. C'était des embarcations de gros tonnage, des navires de gros tonnage qui sillonnaient la Méditerranée de manière tout à fait, disons, normale. On sait qu'il devait exister des navires aussi encore plus grands. On le connaît par les sources écrites. Lucien nous parle justement d'un navire géant de la flotte d'Alexandrie qui devait ravitailler Rome, qui s'était égaré à Athènes à cause des tempêtes. Et donc, ce grand navire Isis devait approcher les 1200 tonnes. Donc, vous voyez, encore plus que le double que la Madrague des Géants. Malheureusement, on n'a pas découvert d'épave de cette taille. Mais peut-être avec le développement de l'archéologie dans les eaux profondes, dont le département d'archéologie sous-marine et subaquatique, qui est basé ici à Marseille, essaye de développer de plus en plus, peut-être on aura dans le futur des belles surprises.
Parmi les épaves romaines les plus extraordinaires, oui, N'ont pas été découvertes en mer, elles ont été découvertes en lac. Je pense bien sûr au fameux bateau de Caligula dans les années 37 à 41 de notre ère.
Oui, tout à fait. Alors ce sont deux énormes navires, des sortes de palais flottants, qui ont coulé dans ce petit lac volcanique au sud de Rome, le lac de Nemi. Et on connaissait déjà l'emplacement, qu'il y avait quelque chose, disons, sous le lac, déjà à partir de la Renaissance. C'était déjà Léon Baptiste Alberti, en 1446 à peu près, qui avait essayé de récupérer ces navires. Bien sûr, il avait complètement échoué. Alors, il faut dire que ce sont des navires de 70 mètres de long. Et juste pour l'anecdote, en 1500, Francesco De Marchi, un savant de Bologne, avait essayé elle avait plongé justement sur un de ses navires en utilisant une sorte de scaphandre, une sorte de cloche, une sorte, disons, un tonneau, qui lui permettait de descendre sous l'eau avec un houblot. Et on a des descriptions très marrantes de cette aventure de Marchi. Il nous dit que les petits poissons du lac, qui mesurent un doigt, lui semblaient énormes. Donc il avait observé que sous l'eau, on a cet effet optique d'un grandissement. Et puis comme il avait amené du pain dans sa poche pour... comme ça, prendre une petite merende pour manger quelque chose. Le pain s'étant mouillé, il avait été attaqué par tous ces petits poissons qui lui avaient un peu émoustillé les parties basses. Voilà. Et puis, il avait dû sortir de l'eau parce qu'il avait eu, bien sûr, une hémorragie. Et puis, on attend au 19e. Donc, les récupérations des bois vont continuer par les pêcheurs locaux jusqu'au 19e siècle. Et on a d'autres essais de renflouage des bateaux au 19e. Et pour arriver justement à l'époque, aux années 20-30, avec justement l'époque fasciste, où à ce moment-là, c'est le ministère de l'éducation publique italienne qui prend le commande, disons, de l'opération, et avec une grande opération très
médiatique, pourrait-on dire.
Médiatique, bien sûr, voilà. On va assécher le lac. On remet en fonction une des émissaires du lac, une émissaire romaine, et le premier navire fait surface en mois de septembre 1929, à la présence des notables, bien sûr, du Duce, etc.
En tout cas, les bateaux seront bombardés, je crois, en 1944-1945, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. Malheureusement, ils ont pris feu. Aujourd'hui, il ne reste que le musée qui témoigne des dimensions de ces navires, parce que c'est un musée énorme, hein, 80 mètres de long, et donc il nous laisse un peu comme ça, pas très content, disons, parce que on a perdu un grand patrimoine là.
Julia Boyte, j'aurais une dernière question. Sans boussole, mais aussi sans gouvernail, la navigation antique est-elle médiocre ou doit-elle tout au contraire être réhabilitée?
Alors, il n'était pas du tout médiocre, était vraiment très performante. Alors, je dirais pas sans gouvernail, parce que quand même les bateaux avaient des gouvernails latéraux, bien sûr. C'est pas le gouvernail des tambours qu'on connaît, mais des gouvernails très très performants, des voilures très avancées, très qui étaient vraiment très très bien pour la navigation. Et donc je dirais pas que c'était une type de navigation médiocre, mais ces navires-là pouvaient sillonner la Méditerranée et affronter tout type de mer et amener les biens, les hommes partout.
Julia Boeto, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Marie Lepeintre, avec le concours de Pascal Morel de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inarab.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 remontera dans le temps, l'an 390 avant notre ère, et se consacrera à la plus farouche nation gauloise, à la mémoire de Brennus qui fit trembler Rome et traumatisa tout un peuple.